One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, je suis Thomas de Pourquerie.
Bonsoir, je suis Guillaume Fédou.
Et tous deux, vous êtes français et touchants.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
Et dites-nous.
Faut savoir s'étendre sans se répondre, chantait Serge Gainsbourg à cette pauvre Lola. Mais si les rabroumons de Serge ont quelque chose de condescendant, le mantra reste intéressant. S'étendre sans se répandre, à l'heure où le fil info de la culture se surcharge de teasers. Une sorte de contamination générale de l'agenda hollywoodien, capable de feuilletonner un nouvel épisode de Star Wars pendant un an, créant faussement de l'attente sur des événements artistiques d'une valeur relative, comme le teaser de la suite des 50 nuances de gris, 50 nuances plus sombres, presque 1 million d'occurrences sur Google Actualité qui recense les articles de presse le mentionnant. Puisque la machine médiatique achète tout, tout le monde s'y met, c'est ainsi que depuis juillet, on connaît déjà un titre des Français de Justice. Et compatiente au compte-gouttes pour enfin apprendre 2 mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, que l'album s'appellera Woman et que le liquide qui coulait sur la croix emblématique de Justice dans le clip de ce titre en avant-première était en fait de l'essence. La croix de Justice s'embrasera-t-elle ? Vous le saurez au prochain épisode. Alors sans plus attendre, je vous conseille justement de lire ou relire Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités aux éditions Zone, qui rappelle que Goethe avait mis en doute le premier dans le prologue de Faust cette idée qu'il faut des moyens massifs pour s'adresser aux masses. Pas sûr. Guillaume Fédou, vous qui scrutez le mouvement musical de la French Touch, dont les Justice qu'on écoute hein, en ce moment font partie, c'est de 96 à 2016 le spectre que vous avez choisi. Pour vous, cette manie du teasing qui a contaminé la musique, c'est l'instantanéité du net qui la rend nécessaire, ou c'est une dérive marketing qui nous éloigne des questions essentielles, à savoir, est-ce que la musique est bonne ?
Oui, c'est un marketing de la rareté qui fait qu'on donne un bout d'étoffe pour attirer le chaland. Et ça marche très bien. Enfin, ça marchait très bien du temps du disque, en fait. C'est ce que faisait Rough Trade et c'est ce que fait...
Qui est un label anglais.
Et qui était aussi une boutique rue de Charonne, ouais. Ici à Paris. Et en fait, c'est vrai qu'on avait tendance aussi à numéroter les disques à l'époque pour créer un sentiment de crave, you know. Pour vraiment donner, tu vois,
une attente,
la boule au ventre, tu vois. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai que pour se le permettre avec le internet, les blogs, etc., et cette musique de flux qui finalement tout le monde peut attraper, si t'es pas Daft Punk ou Justice ou vraiment quelqu'un d'assez fat quoi sur le marché, ça sert à rien de faire ça, il vaut mieux tout donner tout de suite quoi. Enfin bon, après ça peut être aussi une ruse pour faire croire que voilà, mais quand Daft Punk a fait ça, a donné à Coachella, ils avaient grand festival en Californie, immense festival, ils avaient donné comme ça 20 secondes de leur morceau Get Lucky, ça a rendu les gens complètement fous quoi, parce que c'est Daft Punk quoi, voilà.
On parle de teasing, Thomas de Pourquerie, vous, il arrive qu'on vous retrouve dénudé, que ce soit dans les films de vos amis Les Chiens de Navarre, qu'ils soient en moyen ou en long métrage, comme dans Apnée qui va sortir le 19 octobre. Est-ce que, voilà, à propos de donner un bout d'étoffe au public, vous êtes plutôt dans le teasing ou dans le striptease ?
Ni l'un ni l'autre. Par rapport à ce film, vous voulez que je vous dise du bien de ce film.
Oui, vous vous mettez à nu aussi quand vous êtes sur scène avec vos instruments, avec vos musiciens. Vous vous dépecez même pour jouer Sonora, par exemple.
Ben, c'est gentil, c'est un compliment. On essaye, en tout cas. Mais non, ce film Apnée, c'est un magnifique film. Voilà, j'ai eu la chance de tourner avec Jean-Christophe Meurice et Les Chiens de Navarre. Et je vous encourage à y aller.
Et on va y revenir.
Quelle voix, quel timbre, je suis impressionné.
Je vous embrasse.
Ping-pong, c'est sur France Culture.
Début des années 90, partout le monde bouge. À Berlin, Moscou, Washington,
alors qu'ici, c'est le crépuscule du mitterrandisme. À Paris, P-A-R-I-S, la ville de Taxi Girl et de Jacquenot, il n'y a rien à faire. Étienne de Crécy et Philippe Sdard découvrent les rêves à Mosinor, cauchemar industriel transformé en utopie techno. Les deux ingénieurs du son inaugurent sans le savoir une nouvelle révolution française, la French Touch.
Voici donc, sinon un teasing, du moins un amuse-bouche, comme on dit, avec le French Spirit, pour parler la langue de Molière, comme Sébastien Tellier, qu'on retrouve aussi dans votre série, Guillaume Fédoux, cette web-série créée avec Jean-François Tatin, qui propose en 12 épisodes de 6 minutes, disponible depuis le 12 septembre, déjà sur le site Arte Créative, et bien de traverser cette épopée de la musique, la touche française, comme vous avez décidé de l'appeler, de cette musique électronique, la French Touch. Paul Claudel a pu dire que la vérité est comme l'oignon, elle a 7 peaux. Il semble qu'avec vous, la French Touch est 12 peaux, 12 chansons avec lesquelles vous essayez d'attraper ce concept, ce phénomène musical et social, et on court après une impossible définition. Alors je me permets de vous lancer là-dessus. Voilà, est-ce que vous pourriez, à votre façon, puisque vous signez notamment les textes et les élucubrations, comme vous le dites, de cette web-série, une définition de cette manifestation sonore et musicale de l'esprit français?
Bah, c'est très bien résumé comme tu l'as fait, parce que en fait, justement, on n'affirme rien. On sait pas ce que c'est la touche française. On va la chercher parce qu'on demande qu'est-ce qu'il y a de français dans tout ça. Parce qu'on a affaire à une musique qui est quand même instrumentale à 90%. Le 10% qui reste, c'est du yaourt anglais. Donc en fait, il n'y a pas la langue. Donc il y a ce, comment dire, il y a cette sensation de ce que Jean-François Bizot appelait à l'époque la sono mondiale.
C'est le créateur de Radio Nova et d'Actuel.
Oui, tout à fait. Le regretté Jean-François Bizot, qui est donc parlé de sono mondial, c'est-à-dire que voilà, c'est la mondialisation de la musique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça de Coca-Cola géant, et on apporte, comme le Brest Cola ou le Schkal Cola, on apporte la French Touch à quelque chose qui serait une espèce de monstre musical.
Donc c'est une boisson pétillante.
C'est ça, mais pour moi, voilà, c'est vrai que Get Lucky, pour moi, c'est exactement ça, c'est le même effet. Quoi.
Dernier grand tube interplanétaire des Daft Punk.
Voilà, c'est pour ça que nous on a voulu parler de Daft Punk, qui est leur premier tube et qui en fait a ouvert les vannes et a mélangé, hybridé tout ce qui était rock, dance, etc., etc. Et des éléments de l'enfance, des réminiscences, comme on le propose, parce qu'on peut pas l'affirmer en reliant ça à Pierre Bachelet et aussi à la mélodie de Pierre Bachelet et aussi au père fondateur de la disco française des années 70, les Rockettes, etc.
Qui est un groupe de space disco, complètement
même
grimé.
Même Space, c'était un groupe qui s'appelle Space, comme tu dis, exactement, complètement grimé, avec des voilà, parce qu'il y avait l'idée de se cacher, parce que si on est français et qu'on fait de la disco, ben on l'assume pas vraiment, donc on met des masques, en fait, voilà. Ça, c'est Ariel Wiesman qui nous explique ça brillamment dans le documentaire. C'est vrai que nous, voilà, on est parti en se disant, bon, ok, on va rester ouvert, on va rester en situation d'éveil, on va essayer de recueillir la parole des acteurs, ce qui est pas évident, puisque c'est des gens qui sont plutôt habitués.
Les DJ, les producteurs, voilà. Les gens des maisons de disques.
Voilà, et donc avec Jean-François Tatin, brillant réalisateur et co-auteur, on s'est mis vraiment dans cette quête, sans avoir, enfin bon, on avait quelques idées préconçues, mais justement, c'était aussi pour les confronter aux uns et aux autres, parce que voilà, on a voulu aussi être démenti sur certains aspects, avec des gens, avec des vraies personnalités comme Nicolas Gaudin de R, par exemple, qui s'en laissent pas compter. Et c'est ça qui était bien, c'était aussi d'aller un peu au-delà de ses propres idées reçues.
Il y a vos idées reçues, il y a celles qu'on peut avoir aussi en général sur la touche française, la French Touch, comme par exemple cette idée absolument électronique. C'est vrai qu'il y a une nuance qui est apportée dès le premier épisode. La musique qu'on l'a entendue, c'est celle de Motorbass. Motorbass, c'est Philippe Sdard et Étienne de Crécy. Et c'est Étienne de Crécy qui va dire, voilà, finalement, nous aussi, on était un peu un mouvement hip-hop. En tout cas, on avait beaucoup de liens avec le hip-hop, ce qui n'est pas le premier élément qu'on va entendre sur justement ce mouvement électronique français. Et ça m'a fait penser cette idée de musique extrêmement métissée, en fait, qui est la French Touch, à votre métissage à vous, Thomas Porquerie, parce que vous êtes retrouvé dans un squat, le squat des Falaises. Vous dites que c'est là que vous y avez fait votre vrai apprentissage musical, plus qu'au conservatoire. C'était ça aussi, c'était un peu la French Touch, c'était le grand métissage.
Oui, c'est la véritable French Touch. Non, non, mais enfin, je rigole, mais en même temps, c'était une chance extraordinaire que je pense les petits gamins jeunes d'aujourd'hui non plus. C'est-à-dire que nous, on a investi un immeuble, on est rentré par le toit, donc dans les années 2000, début des années 2000, fin des années 90, même toute fin de ces années-là, et on est resté 3-4 ans avec des plasticiens et beaucoup de musiciens à faire des concerts, des expositions tous les soirs, toutes les nuits, à inviter plein de gens, plein de musiciens et à jouer beaucoup de musiques différentes.
Et dans la série, la web-série de Guillaume Fedoux et Jean-François Tatin, on remonte le temps, en particulier jusqu'à cette année 1996, avec ce tube de Daft Punk. Vous, en 1996, vous étiez où, Thomas de Pourquerie? Vous étiez, j'imagine, pas vraiment à Versailles, comme Air, comme Phoenix, mais vous étiez à Bondy?
J'étais à Bondy, ouais. J'y suis toujours.
Vous faisiez quoi, Bondy, en 1996? Est-ce que vous écoutiez justement
ces Daft Punk? J'écoutais un peu Daft Punk, mais avec mon pote Laurent Barden, on se faisait passer pour les Daft Punk qui étaient masqués. On essayait de draguer les filles dans les bars en disant... je me souviens qu'à l'arrivée de R, je sais plus quelle année c'est, vous pourrez m'aider là-dessus.
98, je pense.
Ouais, bah voilà, ça doit être ça. On faisait les mecs dégoûtés, on se faisait passer pour les Daft Punk, dégoûtés que R nous pique la vedette et ça n'a pas marché du tout.
Vous l'avez écouté, cette musique, cette disque-là, Motor Bass, Daft Punk, R,
Daft Punk, ouais, j'ai vraiment écouté beaucoup Daft Punk en particulier.
Qu'est-ce qui vous plaisait? Parce que justement, dans ce documentaire sur la French Touch, on apprend qu'il y a un compresseur qui marche beaucoup, qui va être acheté ensuite par plein de musiciens, qui a vraiment un son Daft Punk. Puis d'ailleurs qu'à ce moment-là, tout le monde se met à parler de son et plus de musique.
Bah oui, mais je crois qu'ils ont créé un son, enfin que qui est pour le coup vraiment reconnaissable. Pour moi, c'est des génies, enfin au même titre que de plein de gens dans d'autres musiques. Mais je pense qu'on peut reconnaître un son de Daft Punk instantanément partout sur Terre. Donc eux particulièrement pour des plutôt néophytes comme moi de la musique électronique. Voilà, c'est pas ma musique de prédilection, mais ouais, Daft Punk extraordinaire. Et moi, j'étais même touché par des textes. Last time I had a dream about you.
Something about it.
Magnifique. Ah, j'ai rêvé là-dessus comme un jeune.
On a des éléments d'ailleurs de réponse grâce à vous, Guillaume Fedoux, sur le son des Daft Punk, notamment le kick, le coup de grosse caisse. Mais il y a une définition qui est un peu mordante de la part d'Ariel Wiesman, justement, dans votre série, qui dit qu'au fond, la French Touch, c'était peut-être ces mecs avec des petites mèches, un peu timides, qui voulaient participer au devenir de la musique sans se faire trop peur. Mais au fond, il y avait quand même une part de prise de risque, sans doute de danger, comme chez chaque créateur. Il se situait où, pour vous, ce risque, ce danger pour tous ces garçons dans le vent à petites mèches?
Non, mais j'adore Ariel, mais c'est un ami, mais c'est vrai que... Moi, je comprends ce qu'il veut dire par là, mais dans la pop, c'était un peu pareil. Si tu regardes Catherine, Dominica, c'est pas non plus des punks avec des haches. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même des gens plutôt propres sur eux aussi. Et même dans le rock indépendant, tu prends les Pixies, Sonic Youth, etc. C'est des gens tous, tu vois, en converse et en jean. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas des... Mais ce qu'il a vraiment voulu dire par contre, et que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est que on a pris pour du métissage, justement, beaucoup de choses qui finalement l'étaient pas vraiment parce qu'à l'époque on n'avait pas Facebook, on n'avait pas même pas Internet, donc on pouvait pas avoir les visages, donc on pouvait se faire passer pour les Daft Punk comme Thomas.
Ça a pas marché.
Je connais des gens qui allaient à Moscou se faire passer pour les Daft Punk, ou voilà, ça pouvait marcher de temps en temps.
C'était un vrai métier hein, dans les années 80.
Ouais, bien sûr, les doubles bookings, mais tu sais que des fois ça venait des maisons de disques. Des fois c'était. Moi j'avais fait un stage chez East West à Hambourg, et je me souviens avoir vu des faux Bob Sinclair là-bas. En Allemagne, parce que de toute façon personne pouvait vérifier, donc et ça arrangeait parce que comme on pouvait pas voir que à la même date le mec jouait à deux endroits différents, à l'époque il y avait pas ces moyens comme ça comme on a aujourd'hui d'information, donc on se foutait vraiment de la gueule du monde, mais c'était ça marchait tant que c'était français. À l'époque tout marchait, quoi, dans ces années-là, ce que je l'appelais les trois glorieuses, 98, 99, 2000. Donc je relis ça à tout ce qui était gauche plurielle, etc., de
l'événement sportif.
Événements sportifs et aussi première vague internet, enfin ce qu'on appelait la nouvelle économie, les premières startups. Enfin, il y avait une espèce d'ambiance un peu folle, surtout à Paris, peut-être moins dans le reste du pays, même si la techno a pris partout. Enfin, moi je suis de Bordeaux et je me souviens qu'à l'époque, et même à Toulouse, enfin la culture rêve avait pris un peu partout. Mais cet esprit-là, c'est-à-dire vraiment club, c'est-à-dire mélange de musique électronique et de de codification club avec tout ce qui va avec, c'est quand même très très parisien. De toute façon, si tu regardes la liste des gens qui ont fait la French Touch, t'enlèves Rhinocéros, Rubinsteiner de Tours, donc Rhinocéros qui vient de Montpellier, enfin voilà, tout le monde est parisien. Et ou alors est devenu parisien par la force des choses. Donc voilà, je sais plus c'est quoi la question, mais enfin
la question,
donc
la forêt de Bondy, c'est sympa, sinon. Est-ce que c'était des gens à mèche qui avaient pas trop envie de se faire peur, mais quand même voilà. d'être connu du monde.
Et alors c'est vrai que quand tu voyais Philippe Sdar, tu pouvais t'imaginer que c'était un type, je sais pas moi, un gourou africain, enfin tu vois, c'était un nom comme ça un peu bizarre, et voilà, on s'imaginait pas que tout le monde effectivement était plus ou moins de la même extraction sociale, plus ou moins du même coin dans l'ouest parisien, etc., etc. À ce moment-là, on savait pas trop. Or, on a tout de suite eu cette vague-là, tout l'aspect pop du mouvement, on a tout de suite compris que c'était les Versaillais, etc. Et je suis très fier...
R puis Phoenix.
Voilà, je suis très très fier que R, enfin que Nicolas Gaudin en l'occurrence...
Des moitiés, donc la moitié.
La moitié, mais c'était lui en fait au départ tout seul. Mais après, c'est vrai qu'avec Modulor, le premier morceau sorti sur son slab, au départ c'était Nicolas tout seul. Et Jean-Benoît qui a trouvé lui le refrain de Sexy Boy, enfin bon, qui, en faisant comme ça, Sexy Boy comme ça.
Jean-Benoît Dunkel, en regardant des défilés sur Paris Première, c'est voilà. Ce qu'on apprend dans votre documentaire.
Non, parce qu'il faut bien voir que ça marche sur deux jambes. C'est-à-dire qu'à la base, il y a Laurent Garnier, donc avec les soirées Wake Up, etc., etc. Et ensuite, il y a les Daft Punk, effectivement, avec le son, mais il y a aussi R avec la mélodie et les harmonies.
Et moi, je me posais une question. Quand on aborde justement cette idée de faire un documentaire sur la French Touch, vous faites courir jusqu'en 2016. Vous avez quand même aussi à l'idée qu'à un moment, la French Touch, ça a été une sorte de prototype d'article de presse. C'est une success story qu'on n'en finit plus finalement de raconter, qu'on circonscrit à différentes bornes historiques. Ça varie selon les moments. Qu'est-ce qui vous semblait essentiel d'apporter justement quand on reprend la parole sur ce sujet, peut-être plus le contexte historique, social?
Bah oui, parce que c'est très égoïste en fait, c'est nos 20 ans. Moi j'ai 42 ans, j'en avais 20 quand les Daft sont arrivés avec le premier album et le premier aussi, les premiers symptômes, comment ça s'appelait comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'est un effet de cycle parce que égoïstement avec Jean-François Tatin, on s'est retrouvé très nostalgique de ça parce qu'on a découvert le clubbing, voilà, toutes ces soirées qui moi m'allaient beaucoup mieux que les rêves techno qui étaient un peu comme ça avec les infolines et les trucs et les attentes sur des parkings, les moteurs allumés et tout ça. Et je préférais le côté plus chaleureux, moi, du clubbing. Je me suis tout de suite senti très, très à l'aise dans ce monde-là, alors que je viens plutôt du rock indé.
Mais qu'est-ce qu'on apporte, concrètement ?
C'est pour ça qu'on finit sur le rock. Mais qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte une liberté, comme le dit Gaspard de Justice dans
Gaspard
l'épisode.
Gaspard Auger.
On a une liberté, c'est-à-dire, ou même Burgala en parle, c'est-à-dire qu'on se...
Bertrand Burgala.
Attention, le name-dropping, enfin le...
Non, mais c'est juste...
Comment le dire en bon français ?
Oui, ben on veut... Voilà, c'est pas le jeter de nom. Non, mais...
très bien.
Bon, par exemple. Mais non, mais ce que c'est un peu indéfinissable, mais en même temps, il y a une forme d'élégance, il y a une forme de romantisme, même avec... Donc Kavinsky, qui est le 11e épisode, il y a cette idée de romantisme, il y a aussi l'idée de la mélodie, et quelque chose, pour paraphraser Nino Ferrer, qui s'appelle la décomplexion, lui c'était la désabusion, mais la décomplexion au sens où voilà, on prend tout ce qu'on a et on fait avec, quoi. Et il y a un côté aussi, fais-le toi-même, qui consiste à bricoler, quoi, dans sa chambre, et à faire des choses sans complexe, et sans se dire, ah je suis français, donc j'ai Brel, Brassens, Ferré, Gainsbourg, nanana, et à se laisser aller dans le plaisir, l'hédonisme, la danse, le corps, enfin toutes ces choses absolument dingues, qui ont été redécouvertes dans les années 90, parce qu'on sortait quand même de rock alternatif et de choses un peu plus, je dirais, viriles.
Et au fond, il y a un autre ingrédient qui travaille toute cette French Touch, c'est le désenchantement. À un moment, c'est dit dans cette série, qu'on peut donc découvrir sur Arte Créative.
Hein,
les 12 épisodes y sont. Il y a l'espoir pour cette génération Mitterrand d'avoir vécu ou de toucher ou de retrouver les années Giscard, peut-être en tout cas avant Mitterrand. Il y a un désenchantement. Or, vous, Thomas de Pourquerie, vous n'avez pas choisi d'emblée, en tout cas, de faire de la musique électronique,
mais
de
vous avez
rejoindre
voté Giscard.
Et de rallier la French Touch. Je dirais pas votre âge, mais vous êtes à peu près de cette génération.
Plus jeune, quoi. Hein.
Vous dites qu'au contraire, vous avez foncé tête
Merci.
Baissée dans le jazz parce que c'était une
musique... que c'est la plus grande musique, monsieur. Excusez-moi,
et qu'il y a du bonheur plutôt que du désenchantement.
Replacer le débat un petit peu quelque part. Là, on parle de clavier, il faille faire
mon Mais justement, est-ce que c'est parce que c'est une musique qui était animée par autre chose que du désenchantement?
Non, c'est parce que, quelle est votre question? Pourquoi j'ai commencé par le jazz?
Et est-ce que vous retrouvez le désenchantement qui, au fond, fait bouger tous les corps et tous les cœurs des gens qui vont dans les clubs, qui vont dans les raves et qu'on croise dans la série de Guillaume Fedoux? Est-ce que c'est quelque chose, un sentiment d'une autre nature qu'il y a au cœur du jazz pour vous?
Pour moi, le jazz, c'est la musique du soleil. C'est vraiment quelque chose de très solaire. Puis c'est, comme le disait Guillaume aussi, mais après peut-être que toutes les musiques sont pareilles, mais le jazz, à la base aussi, se nourrit de toutes les autres, clairement. Enfin, c'est sa seule définition, c'est celle-là. Donc c'est assez pratique et c'est peut être très chiant quand on aborde la chose différemment. Mais ce désenchantement, je ne sais pas, non. Pas du tout. Enfin, j'étais.
Oui, vous avez pu dire que vous avez choisi le jazz pour vous risquer au bonheur.
Clairement. Enfin, j'étais extrêmement dépressif, mais la musique, moi, m'a sauvé la vie. Enfin, un concert de Stefano Di Battista, un grand saxophoniste, voilà, qui débarquait à Paris. J'ai vu ce concert, ça m'a vraiment. Ça m'est rentré dans le plexus et dans tout le corps. Donc, j'ai eu, je pense, une chance énorme. Voilà. Et puis, c'était une évidence pour moi de devenir musicien. Donc, voilà.
Toute cette période de 91 à 93, il a fallu mettre en place de la logistique. Tous les ingé-sons à l'époque, il n'y en avait aucun qui écoutait de la house ou de la techno. Trouver une usine de pressage vinyle en France, la galère, ça n'existait quasiment plus.
Les 1300 stations de radio que compte notre beau pays sont dans l'obligation légale de programmer entre 6h30 et 22h30 40% de chansons françaises.
Pour pouvoir rentrer dans les quotas de diffusion française, dans les pourcentages de trucs français, il fallait qu'il y ait plus de paroles françaises que de paroles anglaises.
T'es prêt là ? Ah, c'est quand tu veux.
Donc on a mis genre 20 secondes ou 30 secondes de plus avec l'introduction où on dit toutes les conneries au début du clip, avec le mec qui arrive au milieu qui nous explique cette petite histoire. Donc c'était une petite piqûre de rappel aussi du truc.
Il y a un petit problème, je vous explique. Vous êtes français ?
Bah ouais.
Alors faut pas chanter en anglais. C'est pas possible. Si vous continuez, je peux interdire votre petit vidéoclip là à la télé française.
C'est pas cool ça.
Et en fait, grâce à ça, on a pu rentrer dans les quotas de musique française, et donc on a pu être diffusé sur les télés françaises.
Et c'est pour ça qu'on l'a fait.
Flashback ou retour en arrière, en bon français, attention. Laurent Garnier vous raconte comment on peut diffuser des clips de musique électronique à la télévision française alors qu'il n'y a que des paroles en anglais. Il faut donc contourner le CSA en faisant venir un type au milieu du clip qui dit donc vous chantez pas en français et voilà, vous avez rempli votre quota. C'était à l'époque de la techno combat, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans ce documentaire sur la French Touch. Le moment où elle est militante, où elle doit expliquer qu'elle n'est pas une musique de droguée, qu'elle est une musique qui respecte la France. Il y a aussi cette idée d'une révolution de l'industrie musicale. C'est un pan que vous avez voulu explorer comme ça, un fil un peu sous-tendu, Guillaume Fedoux, dans ce documentaire. C'est une révolution du système musical, au sens où il faut represser des vinyles, il faut réinventer un système de distribution et de diffusion.
Oui, alors on a cherché, enfin avec Jean-François, on n'a pas voulu...
Jean-François Tatin.
Jean-François Tatin, pardon. On a j'ai du mal.
Il y a que des... C'est que...
Je fais du prénom dropping.
Je fais les sous-titres ce soir.
Je fais du prénom dropping.
Non, c'est le réalisateur de la série.
Voilà. Et non, en fait, on n'a pas voulu trop s'apesantir sur l'aspect business, qui pourtant, effectivement, a réellement changé dans ces années-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, les Daft Punk, c'est pas pour encore parler de forcément, mais c'est la réalité, ont signé en licence, c'est-à-dire qu'ils ont voulu garder leur bande et donc leurs droits sur la musique, c'est ce qui se faisait pas vraiment à l'époque. À l'époque, on signait ce qu'on appelle un artiste, c'est-à-dire qu'on donnait tous nos droits à une maison de disques, qui nous donnait une avance, etc. Et on remboursait l'avance, et le jour où c'était recoupé, on pouvait enfin gagner un peu d'argent. Et on en gagnait, puisqu'il y avait des disques qui étaient vendus à l'époque, ce qui n'est plus moins le cas aujourd'hui. Et donc tout ça a créé, c'est-à-dire que le home studio, finalement, donc l'idée de fabriquer soi-même la musique dans sa chambre, a évidemment correspondu aussi à une forme de home business, si tu veux, c'est-à-dire que bon, mais je fabrique chez moi, donc ça reste chez moi. Voilà, ça, c'est ma musique. Personne n'a eu à me payer un studio. J'ai pas besoin d'avance d'ailleurs. Donc j'ai fait. Voilà. Donc tu arrives avec tes produits. Tu sais, c'est comme le maraîcher qui arrive sur le matin avec ses carottes, etc. Il dit, mais voilà, j'ai fait ça ce matin. T'en veux pas. Voilà. Et donc en fait, eux, ils sont arrivés comme ça, les Daft Punk, avec Homework, donc qui était littéralement le devoir, les devoirs quoi, qu'ils ont fait chez eux, dans leur chambre. Et ils ont dit, ok, par contre, on garde. Et donc ils ont créé des structures. Ça s'appelait Rouler, Scratcher, Cri d'amour, qui a été créé par Guy Manuel, pour garder le contrôle de la production. Et c'est vrai que ça a un peu changé la donne, parce que derrière, tout le monde a voulu faire pareil. Parce que du coup, on s'est dit, ben voilà, c'est génial, je vais gérer mes clips, je vais gérer mes pochettes, je vais gérer mon track listing, c'est-à-dire l'ordre des morceaux sur les albums, comme une grande personne, quoi. Ce qui était une prise de contrôle quand t'as 20 ans et que tu débarques dans des trucs comme Virgin ou Warner, qui à l'époque étaient vraiment des mastodontes.
De l'industrie.
Encore en pleine forme dans les années 90, puisque ça brassait un argent complètement surréaliste aujourd'hui. Quoi. Aujourd'hui, c'est plan social sur plan social. Donc l'industrie, aujourd'hui, elle est en train de se redéfinir dans le digital. Mais enfin, on est loin, loin, loin de ces années-là.
Cette question de la production, du business, de la musique apparaît quand même dans votre série, Guillaume Fedoux. En revanche, il y a deux points qui, pour moi, sont presque absents. Il y a la question de la drogue, qui est un peu écarté par Laurent Garnier, qui est donc un de ses fondateurs de la musique électronique en France, et qui lui peut s'enorgueillir, je crois, de n'avoir jamais pris de drogue de synthèse. Vous roulez des gros yeux, donc ça c'est une légende urbaine. En tout cas, voilà, c'est laissé de côté hors champ, comme une phrase comme ça de Nicolas Godin à propos d'une tournée aux États-Unis du groupe R, qui ne finit pas sa phrase et qui dit qu'ils se sont bien amusés, que c'était un sacré cirque. Et puis il y a un autre point absent, puisqu'on fait du name dropping ce soir, le nom d'un DJ qui est DJ Mehdi, disparu il y a 5 ans maintenant, me le rappelait Mathilde en préparant cette émission, et qui a fait entrer la musique électronique et sans doute la French Touch dans le rap français, qui est l'autre grand courant musical de ce milieu des années 90, et qui a attiré, voilà, avec des albums comme celui du 113, ou celui d'Idéal J, d'un certain Kerry James, qui œuvre toujours aujourd'hui. Est-ce que, voilà, vous pourriez nous expliquer l'absence de DJ Mehdi de votre série?
Alors je vais commencer plutôt par une présence, c'est que tu sais que Thomas Bangalter, le seul caméo qu'il a jamais accepté...
Un des deux Daft Punk.
Un des deux Daft Punk, le seul caméo qu'il ait jamais accepté, donc la seule participation au clip de quelqu'un d'autre qu'il ait jamais accepté, c'est pour 113 Fous la Merde. C'est-à-dire que dans le clip de 113 Fous la Merde, tu vois Thomas Bangalter habillé en robot, c'est là, parce qu'il avait un tel respect pour ça, et je me souviens très très bien avoir eu des discussions avec eux, donc avec Thomas et Guimane et évidemment Pedro, qui est très très proche... Pedro Winter.
Qui est leur manager.
Voilà, et qui était aussi manager de Mehdi, et qui était vraiment, ils étaient vraiment très proches, je dirais qu'il a opéré la liaison entre le club et la rue. C'est-à-dire que quand tu pouvais pas rentrer en club à l'époque, tu faisais chic quand t'étais à New York à la fin des années 70, et quand c'était à Paris, c'était Mehdi qui faisait un peu le lien, je dirais, entre le confort du club avec les listes, etc., et la culture de la rue. Donc Idéal J, effectivement, son premier groupe. En vérité, toute la série lui est dédiée. Moi, je l'adorais personnellement. DJ Mehdi, c'était un garçon extraordinaire. C'était pour le coup un soleil aussi. C'est-à-dire qu'il faisait des soirées au soleil de la Butte. Je me souviens, il était toujours lumineux, toujours accueillant, et avec cette touche très spécifique. Effectivement, qui consistait à mélanger des tas de choses. Il jouait aussi de la guitare. Il avait fait une bande originale pour Djalil Lesper, quasiment à la guitare sèche. Donc c'était un surdoué qu'on adorait, mais on n'a pas. On voulait pas tomber dans l'hommage. On voulait vraiment scanner en fait ce mouvement. Et c'est vrai que sur Mehdi, moi, c'est émotionnel pour tout le monde. On rentrait dans quelque chose d'autre. On aurait pu lui dédier en début d'épisode et tout, mais c'était un peu bizarre aussi.
Il est secrètement dédié.
Exactement, c'est secrètement dédié à Mehdi. Le lien avec le hip-hop est assuré par Zdar, Philippe Zdar, donc de Motorbass puis de Cassius, qui produisait MC Solar au moment où ça démarrait. D'ailleurs, ça c'est ce qui est amusant, c'est que De Crécy travaillait sur Niagara et Zdar sur Solar, et c'est la rencontre des deux qui a fait le Motorbass.
Tandis qu'une nouvelle scène française prend son envol avec Brodinski ou Geza Feldstein, les vétérans de la French Touch se réinventent au cinéma. Quelques années après la BO de R pour Virgin Suicide de Sofia Coppola, la musique de film apparaît comme le seul avenir possible. Le compositeur Rob, auteur de l'album Don't Kill, fait partie de ces Français de service, appelé par le cinéma américain.
Plus que la musique américaine, c'est le cinéma américain, je pense, qui influence, que ce soit Phoenix, Sébastien Tellier ou Kavinsky, c'est évidemment le cinéma. Et ça, par contre, c'est pas politique, c'est juste parce qu'on a grandi dans les années 80, on a été abreuvé de cinéma américain, et donc c'est ça qui nous a informés, quoi. C'est les Goonies, quoi. Bon, c'est K2000 et les Goonies. Ça, je pense que ça fait une grande part de l'influence de ce qu'est la French Touch. De même que l'influence du Japon à travers les dessins animés. Et ça, je pense que, par exemple, la musique des Cités d'Or, qui vient pas du Japon, mais de Shuki Levy, ça aussi, c'est une grande influence.
Les Cités d'Or, à l'origine de la French Touch, la touche française, ce grand mouvement musical que vous retracez donc de 96 à 2016, Guillaume Fedou avec Jean-François Tatin, le réalisateur. C'est en ligne sur Arte en intégralité depuis ce lundi. Et là, on a entendu donc l'influence finalement du cinéma américain.
Et ça marche très bien, je me permets de le dire, ça marche très très bien.
Oui.
Non, mais c'est vrai, j'ai pas tout le temps des trucs qui marchent, genre des disques et tout ça.
Vous avez fait des disques un peu secrets, comme
voilà,
ça. Garçon moderne, par exemple.
Mais c'est Jeff Tatin qui a réalisé le clip, d'ailleurs, de Garçon moderne.
Mais l'idée, je me dis, on parle pas dans le détail des références, sur ce qui va influencer ou pas, les musiciens de la French Touch, mais on a quand même cette idée que Paul Williams, qui a collaboré à l'album des Daft Punk, et le Phantom of Paradise de Brian De Palma, c'est forcément une des références pour l'électro-française. Vous vous attaquez à Phantom of Paradise, Tomate Pourquerie. Justement, ça a eu, parce que vous allez faire une sorte de relecture dans une Phantom of Paradise party.
Pas du tout. Alors.
Ah bon? Ça vous êtes annoncé?
Oui, mais tout cela est faux, donc.
Ah bon? Ah
bah, faites-vous rembourser.
C'est bien, vous êtes annoncé à la Philharmonie, je vous le dis.
Non,
hein.
Non, mais c'est complet en fait. Je pense que c'est exclusivement grâce au film. Mais en tout cas, la projection va être magnifique. Je suis allé voir l'écran et l'installation du son donc dans la Philharmonie 2. Ça va être très très beau. Et donc moi, ils m'ont appelé, les gens de la Philharmonie, Vincent Anglade, et je les en remercie. C'est un très beau cadeau pour un petit peu enrober ce film pour que les gens voilà passent une soirée un peu plus longue.
Bah alors, c'est pas faux, c'est juste complet.
C'est juste complet.
On peut toujours casser la porte.
Non, non, mais...
Comme on fait la French Touch dans l'industrie musicale.
Il n'y a pas de résonance pour vous, c'est-à-dire entre ce que vous allez proposer en musique.
C'est pas été une commande infernale ou de revisiter tout le répertoire musical du film. En tout cas, j'ai pas voulu l'aborder du tout comme ça, mais plutôt dans l'esprit, dans ce que ça m'inspire. Donc avant le film, on fera une grande introduction avec des amis musiciens, chanteuses, chanteurs et des comédiens, des chiens de Navarre, entre autres. Et voilà, genre une performance. Et après,
qu'est-ce que ça vous inspire, justement, si vous êtes parti de cette inspiration-là?
Ce sera le 17 septembre, hein, si vous voulez essayer d'entrer par les sorties
de secours.
Alors peut-être,
venez si vous voulez vraiment, parce que peut-être qu'il y aura des gens qui se désisteront au dernier moment, mais je crois que malheureusement... Il y a plus de place, en tout cas, disponible sur Internet ou toutes ces choses.
Mais on parle des influences.
Qu'est-ce qui vous inspire justement dans Phantom of Paradise?
Ça m'inspire pas. Je veux pas en parler.
Rien. Non, mais je sais pas si vous dites que
non,
vous êtes parti de là.
On m'a demandé de venir. Bon, c'est mon métier, donc j'ai été payé. Mais
on parle des influences du cinéma américain.
Non, mais c'est pardon. Excusez-moi. Non, non, mais
vas-y.
Non, non, mais vraiment ce film, qui n'aime pas ce film, c'est vraiment extraordinaire. Et puis ça parle de choses assez intemporelles et assez inspirantes du pillage des auteurs, des compositeurs. Mais plus simplement, enfin, pour moi, ça m'inspire parce que pour moi, la musique, c'est du pillage permanent, vraiment, très clairement. Et donc aborder cette notion concrètement dans son cœur et dans son premier degré, c'était assez réjouissant, assez jouissif. Voilà, ça nous a inspiré pas mal de bêtises qu'on fera.
Pas mal de pillages.
Ouais, complètement, exactement, et de détournements. Et justement, ce film était une folie quand il est sorti. Et voilà, donc moi, vous verrez si vous venez. Mais disons qu'on s'est laissé vraiment partir très loin dans ce qu'on en ferait. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong, l'émission qui vous conseille donc de rentrer même quand c'est complet, ou alors de vous faire passer pour les Daft Punk. La suite avec Thomas de Pourquerie, notamment sur les traces de Sonra, mais pas que. Et toujours Guillaume Fédoux pour l'histoire de la French Touch 96-2016.
Ping Pong. La culture sans limite.
La touche française a donc 20 ans, mais la Dynamo fête aussi son anniversaire. La Dynamo, cette salle sise à Pantin, banlieue un poil moins rutilante et verdoyante que Versailles, où depuis une décade, donc, résonne une musique décadente et animale, une musique concrète comme la jungle bétonnée, et moderne comme seuls les jeunes gens dégénérés et les orphelins savent en composer du jazz. Aussi, notre disque du jour puise-t-il dans le programme de la Dynamo Fest Happy Dynamo, qui tonitruera à partir du 30 septembre et vous propose d'écouter à présent les Sons of Kemet, petit A parce que leur musique nous apparaît comme un chaînon déchaîné entre le jazz lancinant, organique, politique et haut perché, et la musique électronique et sciemment répétitive qui convoque Dieu et le diable sur les parquets de danse, les dance floor. Petit B parce que le clip du morceau que nous nous apprêtons à écouter a des airs de rave, avec ces jeunes gens chevelus et dénudés qui dansent comme des possédés autour d'un feu, et qu'à écouter Sons of Kemet, vous pourriez bien avoir envie de les imiter, avec ou sans micro-pointe dans le gosier. Et enfin, petit C, parce que le saxo et leader Shabaka Hutchings, mais aussi le tubiste, oui, un joueur de tuba, et les deux batteurs, oui, deux, qui forment les Sons of Kemet, nous engagent à la responsabilité individuelle en nous rappelant que Babylone, autrement dit l'orgueil et le mal, sont d'abord en nous. Inner Babylone. Inner Babylone, la Babylone intérieure, par les Sons of Kemet, dont l'album Burn est paru chez Naïm Jazz, et qui vous invite à la transe dans le cadre de la Dynamo Fest à Pantin, donc du 30 septembre au 2 octobre, aux côtés de jeunes gens charmants et néanmoins brutaux comme Meta Meta, Journal Intime et un certain Thomas de Pourquerie changé en viking.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Thomas de Pourquerie, le musicien qui veut voir avec l'œil de l'esprit. Oui, c'est vous. Avec nous, Guillaume Fédoux également pour cette deuxième partie de Ping Pong qui nous parle de la French Touch, la touche française. Thomas Pourquerie, vous allez vous attaquer à Sonra, comme vous l'avez déjà fait. Vous avez perdu aussi un moment tout ce que vous aviez fait, vous avez tout recréé en deux jours. On va voir ça à Paris, ce sera la boule noire, donc le 22 septembre.
Oui, ce sera notre dernier concert de ce répertoire à Paris. Après, on jouera
sur
en Allemagne quelques fois. Et mais c'est, voilà, c'est la fin. On a un nouveau disque qui sortira en début de l'année prochaine. Il sera plus sur Sonra. Donc voilà, ce sera notre dernier concert. Donc venez nombreuses et nombreux.
Nous, c'est Supersonic. Mais au départ, Sonra, c'est une petite chanson que vous chante votre mère pour vous endormir.
Enlightenment, oui.
Vous allez passer finalement par tout un tas de périples musicaux avant de vous décider d'embrasser Sonra et d'enfin le relire. Pourquoi vous avez mis ce temps-là? Est-ce qu'il était nécessaire? Et puis, qu'est-ce que ça représente pour vous, Sonra?
Ben, en fait, pour moi, c'est vraiment, avant toute chose, un immense compositeur et qui est vraiment pas reconnu en tant que tel. C'est quelqu'un qui fait fantasmer. Alors, c'est génial, parce qu'il a créé ce personnage et un pionnier de l'afrofuturisme, donc très engagé politiquement.
Et il prétendait venir de Saturne.
Ouais, voilà. Et puis, c'était les Noirs américains qui, avec des gens de funkadelic, voilà, qui, entre autres, qui prétendaient venir d'une autre planète. Donc, il y avait plus de blancs ni de noirs sur Terre. Et je trouve que c'est vraiment d'actualité. Je crois volontiers Sonra qui croyait lui vraiment dur comme fer venir d'une autre planète. Bref, mais non, Sonra, c'est pour moi avant toute chose un compositeur de génie. Et dans le jazz, il y a vraiment cette culture de jouer des standards, donc des morceaux très connus de grands compositeurs du top 50 il y a un siècle en gros. Un peu moins, mais voilà. Et j'étais très surpris dans les jams qu'il y ait aucun morceau de Sonra au répertoire alors qu'il a vraiment écrit ses chefs-d'œuvre. Donc j'ai eu envie assez simplement de jouer ces morceaux plus que de lui rendre hommage.
Vous avez mis du temps à y venir quand même.
Ouais, il a fallu apprendre la musique.
Voilà. Vous étiez toujours.
Oui, ça prend un peu de temps. Ah,
vous étiez toujours bercé par Enlightenment.
Non.
Ça donne quoi, Enlightenment?
Ça donne. Vous l'avez pas chez vous? Non, je peux pas vous le chanter.
Vous chanterez moins bien que votre mère.
Ouais.
Vous parlez du jazz, cette musique qui a 100 ans ou presque, elle a même peut-être un peu plus, parce qu'on dit que les Blancs l'ont découvert avec beaucoup de guillemets à la Nouvelle-Orléans en 1910, cette musique de noir qui était faite pour danser. On oublie aujourd'hui parfois que le jazz, quand on ne le pratique pas, que c'est une musique pour faire danser, comme la musique électronique qui rassemble les foules, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les douves des châteaux de Bretagne, comme notre réalisateur Thomas Beau, ou ailleurs pour danser. Vous avez eu, avant de monter le Supersonic, Thomas de Pourquerie, une fanfare qui s'appelait Rigolus et dont la devise était « Danser est un devoir ». C'est aussi une affaire de faire danser les corps, la musique et le jazz
venez,
en particulier.
Venez jeudi prochain à la Boule Noire, ça va danser. Supersonic, oui, c'est une musique qui fait danser. Et la musique de Sonra, entre autres. Mais
qu'est-ce qui fait danser? C'est le kick, c'est le
ouais,
la grosse
ouais,
caisse
ouais,
comme, la comme trans, l'électro.
C'est la trance, enfin particulièrement avec ce groupe, on joue vraiment de la musique, de la musique répétitive aussi, enfin clairement, ouais.
Et qu'est-ce que tu penses du jazz house, par exemple?
Du jazz house.
Guillaume Fedou. Ouais.
Je ne connais pas, enfin le mix de la house et du jazz.
Ouais.
Comme Saint-Germain, des groupes comme ça.
Par exemple,
ouais,
on a appelé l'acid jazz à l'époque aussi.
Ouais, aussi l'acid jazz.
Très bien. J'ai aucun morceau de Saint-Germain ne m'a bouleversé personnellement, mais
Non, je veux dire, t'as pas de réticence de principe en disant qu'on peut sampler du jazz pour faire de la musique électronique.
Non, Guillaume, j'ai aucune réticence.
Vous parlez de pillage tout à l'heure, Thomas Pourquerie, ouais. Donc je pense que c'est la petite boutique est ouverte.
Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire et qu'il faut sans cesse rappeler, quoi. C'est vraiment qu'on ne fait que se piller, même au-delà de la musique. Et toutes ces chapelles, moi, me foutent la nausée un petit peu, je vous le dis franchement. Et peut-être pour ça que je fais du jazz et que je revendique ce mot qui était un mot d'argot au départ, qui voulait dire la poubelle dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas définir. Je trouve ça assez magnifique. Et voilà, je vous embrasse.
Et vous avez d'ailleurs ce verre de La Fontaine qui vous sert de devise. Même beauté, tant soit exquise, rassasiée, saoule à la fin.
Il me faut d'un autre pain, diversité, c'est ma devise.
Est-ce que ce ne serait pas aussi la devise de la French Touch,
ça devrait être la devise de la France, de l'Europe et du monde. madame.
Non, mais Guillaume
Fedou.
Non, mais Fedou.
Ne traumatisez pas avec la French Touch.
Non, mais est-ce que d'une certaine manière, justement, cette espèce de, voilà, de pillage permanent, c'est vrai que votre web-série, elle retrace aussi les influences sans décider.
Jean de La Fontaine.
Sans décréter. Mais il y a par exemple, on revient à Pierre Schaeffer, même si on a évoqué les Cités d'Or tout à l'heure, on peut parler aussi de Vanier, il y a toute une famille comme ça qui est convoquée. C'est ça, c'est aussi la diversité, la French Touch.
Ah ben il y a une noblesse de la touche française, il y a une élégance dans la production, effectivement, il y a des choses très très belles et très aussi risquées, très expérimentales qui ont été faites après-guerre avec l'IRCAB, le GRM, etc. Nos illustres pères fondateurs ont aussi défriché dans tous ces domaines, et donc mais aussi en littérature, la nouvelle vague en cinéma.
Et vous avez croisé Sun Ra, un des pionniers du synthétiseur?
Non. Je vais dire une bêtise, mais en fait non, j'ai pas croisé Sun Ra. Mais je connais mal. C'est pour ça que je demande à Thomas quel morceau pour nous initier. Donc je pense que ça va être Enlightenment. Je vais essayer comme ça.
Enlightenment, mais en fait il y a des compilations qui sont très bien. Je vous conseille ça.
Parce que ça fait Sun Ra, ça fait partie des artistes que tout le monde croit connaître et qu'en fait on connaît pas vraiment.
C'est vrai, parce qu'il a fait plus de 130 disques sous son nom, donc il y a vraiment absolument de tout. C'est un univers à lui tout seul, donc il faut. Voilà, allez écouter, je pense, les compiles au départ.
Et puis voilà, et c'est juste pour dire cette histoire de touche française, c'est n'ayons pas honte de ce qu'on a fait avant, n'ayons pas honte de parler, alors sans tomber dans Jean-Michel Jarre et les grandes stars, forcément, les têtes d'affiche, mais voilà, après, tout s'hybride, tout se mélange, c'est-à-dire que nous, on a notre héritage, et ensuite, là-dessus se greffent des tas de choses, exactement comme Thomas en parlait pour le jazz.
Je peux dire comme ça.
Talking about jazz. Et tu aimes le jazz?
Pour la French Touch.
On vous voit mimer hein, le coup de baguette sur le Charleston.
Donc c'est comme ça. Le disait Thomas pour le jazz.
Non mais voilà, tout s'hybride, tout se mélange, voilà, tout s'hybride, tout se mélange. Il n'y a pas de prophylaxie ou je sais pas quoi à voir en disant ah non je touche pas à ça. Voilà, tout est et Chassol qui est par exemple à
Christophe Chassol,
qui a fait la meilleure. On peut l'appeler Chassol. On a le droit.
C'est son nom de scène.
C'est son nom de scène. Musicien extraordinaire.
Avec Joss Mienel, qui a fait le générique.
Voilà.
Un musicien de jazz, Joss Mienel.
Exactement. Mais Chassol est très jazz, hein. Et, d'ailleurs, la reprise qu'il fait de Divine de Sébastien Tellier est juste, jazzy au possible. Et voilà. Et en même temps, très enfantine avec cette touche un peu amusante. Et c'est ça qu'on a réussi, je pense, à faire. C'est montrer qu'il y a un lien avec l'enfance, et que si la touche française, c'est aussi savoir être drôle, et savoir, sans la gauloiserie, la gaudriole, mais avoir cette petite touche d'humour qui nous différencie des fois les anglo-saxons qui sont un peu premier degré, quoi.
Et alors, s'il y en est un qui s'hybride, c'est aussi vous, Thomas de Pourquerie, vous hybridez parfois avec vous-même, et à l'occasion avec un certain...
Du temps, malheureusement.
Et mais parfois aussi avec un certain Maxime Delpierre. Pray until it's time to go. High is better than goodbye. I beg your bill, but we have to go swimming in the sunshine. Come on with me, let's go. écoutez bien Thomas de Pourquerie changé en Viking. Vous pouvez prononcer VKNG. C'est son nouveau projet avec Maxime Delpierre. La chanson, c'est We Are the Ocean. Nous sommes l'océan. Et on parlait de pillage tout à l'heure. On est là dans une razzia, mais une razzia sur les cœurs avec ce projet qu'on pourra découvrir en particulier samedi 1er octobre dans le cadre de la Happy Dynamo, la Dynamo Fest, ce festival pour les 10 ans de la Dynamo à Pantin. Razzia sur les cœurs, je le disais. Et là, on arrive à l'intérieur de nos épidermes, à l'intérieur de nos organismes. Dans la série de Guillaume Fedoux et Jean-François Tatin, Sébastien Tellier, Rob, d'ailleurs le clavier Rob, dit que cette musique, elle est aussi faite pour chialer. Vous faites de la musique pour chialer, et singulièrement avec Viking, les durs à cuire qui sont des tendres et même des chialeurs.
Des chialeurs, bah oui, enfin, on cherche.
On vous
des...
entend chanter, hein.
On cherche à voir. Enfin, moi, je sais pas quand je vais écouter un concert ou je vais voir un film ou quand on ouvre un livre, on cherche une rencontre, quoi. On cherche à être bouleversé, à une rencontre avec soi-même, clairement, quoi. Donc, on essaie d'être sincère avec tout ça. Donc, évidemment, que les larmes.
Et ne faire que chanter, puisque c'est le cas sur cet album. Vous êtes saxophoniste, on l'a dit, vous composez, vous arrangez, et là vous ne faites que chanter sur Viking, dont vous êtes évidemment à la composition. C'est aussi aller plus profond dans votre intimité, votre fragilité.
Oui, très certainement, parce que j'ai toujours chanté. J'ai commencé dans Rigolus, ou vraiment dans une fanfare. Enfin, j'ai commencé à chanter très déguisé, on va dire. Et puis j'essaie de m'effeuiller comme ça, petit à petit. Voilà, c'est vrai que c'est en tant que musicien, je crois que c'est encore plus dur de se mettre à chanter parce qu'on a la barrière de l'instrument et on est habitué à ça, et quand on chante des textes, évidemment, il y a plus rien entre vous et le reste du monde.
Au-delà de passer de la musique, donc de producteur à la musique comme ça, de chanteur, comme on voit la mutation dans le documentaire sur la French Touch, vous, quand vous allez au cinéma aussi, sur ce terrain-là, vous vous sentez comment, Thomas Pourquerie? Parce qu'on va vous voir donc dans Apnée, qui est monté par un déchir de Navarre.
Je me sens comme...
On vous a vu aussi chez Antonin Perejadko,
ouais.
Dans son dernier film, La Loi de la Jungle.
Je me sens comme Christophe Rocancourt, très clairement. Je me sens comme un imposteur absolu. Mais c'est un tel bonheur que donc j'y retourne avec joie.
Mais qu'est-ce qu'on vous demande?
Bah, on me demande, bah, mets-toi ici, dis ça...
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un a priori sur ce que pourrait faire Thomas Pourquerie dans un film, comme Benjamin Biolay, qui fait toujours indéfiniment une variation sur Benjamin Biolay, on va dire.
Non, j'ai joué des rôles très différents.
Non, mais bien
mec
sûr.
Qui a fait deux films.
C'est un devenir instrument, donc, vous l'instrumentiste? C'est un devenir machine, même?
Exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans le premier film que j'ai tourné. C'était le premier film de Jean-Christophe, avant Apnée. Meurice, tout à fait. J'ai eu vraiment une énorme appréhension avant de tourner, parce que je ne suis pas acteur, donc j'ai du respect pour ce métier, mais après l'avoir fait, j'ai vraiment goûté au plaisir de soi-même devenir un instrument. Et c'est clairement ce qui se passe quand on est dirigé par un réalisateur. Il appuie sur des touches à vous, sur vos cordes sensibles, voilà, il peut déclencher à tel moment tel aspect de votre personnalité. C'est assez déroutant, impressionnant et jouissif aussi.
Vous, Guillaume Fedoux, vous n'êtes pas encore un instrument.
Waouh.
Non.
Ni un meuble.
Mais il y a cette conquête instrumentale aussi qui fait partie de ce documentaire French Touch. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a finalement une révolution. Vous le dites, c'était DIY, c'est do it yourself, c'est-à-dire c'était le fais-le chez toi. Mais c'est aussi une révolution des machines. On avait reçu Laurent Garnier justement ici avec Laurent Deville dans cette émission dans Ping Pong, et qui nous rappelait que justement la grande histoire de la musique qui se joue dans la French Touch, c'est aussi une révolution des machines. Ça, vous l'avez un petit peu occulté. Enfin, on le voit un petit peu, mais on rentre pas vraiment dans
la machine.
Ouais, ou dans tout ce que ça a pu changer.
Non, mais il y a eu des choses là-dessus, hein. Il y a eu Révolution Home Studio, déjà, il y a eu des choses qui ont été faites là-dessus, sur les machines et tout ça, sur le logiciel.
Les machines existaient déjà. Depuis quelques temps, quand même.
Déjà, il y avait quand même Kraver, qui avait quand même des choses qui étaient faites avant, c'est vrai, en plus. Et puis bon, ouais, moi, ça me passionne pas. Je préfère les histoires de camaraderie, de savoir qui est copain et qui...
Comment c'est ça le marche. Fantôme dans la machine.
Oui, voilà. Et finalement, c'est comme disait Catherine, surtout, qui disait robot après tout, en réponse à Human After All des Daft Punk. Ce dialogue entre l'homme et la machine est passionnant, mais c'est un sujet de philo au bac ou même après, si on veut, mais on peut parler de l'iPhone aussi, ou des smartphones qui sont comme des prothèses numériques. On peut.
Mais on sent quand même qu'il y a certains musiciens qui ont eu des épiphanies, comme Nicolas Godin de R, qui va tester une voix avec une certaine machine, et là,
une vieille machine,
et il sera plus jamais comme avant.
C'est la cabine Leslie. Mais non, mais ça, c'est génial. J'étais fou quand il m'a dit ça, parce que je le connais depuis 20 ans, mais jamais il m'avait raconté une histoire pareille. Et c'est vrai que quand il voit sa vie changer avec l'effet qui fait tourner la voix, donc ça fait sexy, boy, comme ça. Et que du coup, ça emmène le morceau complètement dans une autre dimension. Et il sent qu'il est en train de marquer l'histoire, parce que c'est ça. L'enjeu, il est là. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'oublis, enfin pas mal, c'est pas des oublis, mais il y a pas mal de, je dirais, de groupes ou de choses qui manquent. Voilà, il y a pas Gilbert, il y a pas Phoenix, il y a pas Oiseau, il y a plein. Mais par contre, on a cherché à voir qui a vraiment renversé la table. Ou juste induit une thématique. Et c'est vrai que quand il sent cet effet sur Sexy Boy, il sait qu'il va blaster tout le monde, et que Bowie le lendemain ou trois jours après va dire mais R c'est fantastique, et que tout le monde va s'enticher de ça, parce qu'il sait qu'il est en train de marquer quelque chose. Donc c'est la machine, mais c'est des machines vintage, comme le raconte très bien lui-même. C'est des machines vintage qui sont utilisées autrement. Donc c'est pas tellement la technologie forcément, c'est aussi la façon dont tu t'en sers.
Ping pong. C'est déjà fini. Et cette émission, vous l'aurez peut-être reconnue, au son est secrètement dédiée, comme votre documentaire sur la French Touch, à DJ Mehdi et son garde du Nord qu'on entend en ce moment.
Yes.
Merci beaucoup à tous deux, Guillaume Fédou, Thomas de Pourquerie. Guillaume Fédou, donc, avec Jeff Tatin, Jean-François Tatin, vous signez Touche Française, cette web-série à découvrir, à déguster, on peut même en abuser. Les 12 épisodes de 6 minutes sont disponibles sur le site Arte Créative. Quant à vous, Thomas de Pourquerie, on peut donc casser la porte de la Philharmonie samedi à 20h30 pour la Phantom of the Paradise Party.
Et on fera un set de Viking après le film, en plus.
Et ben voilà, il y a une after-party qui est même prévue, comme on dit dans le jargon. Vous pourrez aussi casser la porte, tout simplement l'entrebâiller. Si le physio est sympathique, ce sera le 22 septembre à la Boule Noire. Ce sera un jeudi, donc. Ça, c'est le Supersonic et sonnera avant de partir dans les étoiles. Et la Dynamo Fest dont on a parlé, c'est à partir du 30 septembre à Pantin.
Le ping-pong est un pillage radiophonique qui s'organise en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssette Wendoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Stéphane Poitevin et Bruno Gagnère-Fontanil.
Demain, eh bien, nous pillerons le langage qui est notre monde, comme dit Alain Mabankou, et aussi dans la compagnie de l'écrivain québécois Daniel Grenier.